ORF Beat.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères. Et oui, nous émettons en 16 langues sur RFI, reviennent chaque semaine pour vous sur les sujets qui les ont marqués dans l'actualité environnementale. Nous donnons aussi la parole à d'autres médias, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons, entre autres, décortiquer les résultats des élections européennes et essayer de comprendre pourquoi l'environnement est une priorité pour les Européens dans les sondages, mais pas dans les urnes. Nous nous interrogerons sur les climatiseurs et les paraboles de cuisson solaire. Est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises solutions face au changement climatique? Et nous irons en Chine et à Taïwan, où les PFAS, ces molécules chimiques toxiques, pullulent. Soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Sermon-Dada. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes responsable de la rubrique Environnement et énergie à The Conversation France. Alors The Conversation, c'est un média en ligne passionnant et innovant. Innovant, vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, alors déjà merci. Alors l'innovation, c'est qu'en fait, on donne la parole à des universitaires et des chercheurs spécialisés pour éclairer l'actualité, éclairer le débat public. Et ils écrivent leurs textes sous l'encadrement, on va dire, d'une équipe de journalistes éditeurs qui, eux, sont spécialisés.
Voilà, il y a plein de rubriques, plein de sujets. C'est vraiment une mine pour ceux qui veulent s'informer avec une dimension recherche sur plein de sujets.
On essaye d'avoir le meilleur des deux mondes, on va dire, le monde journalistique média et le monde universitaire recherche. Et je profite qu'on est à l'antenne de RFI pour rappeler que nous faisons partie d'un réseau international de plusieurs rédactions. Donc là, The Conversation France, mais on a aussi le Royaume-Uni, les États-Unis, bien sûr, l'Australie, mais également l'Afrique. On a une rédaction en Afrique qui publie également en français.
Voilà, donc on vous laisse aller voir sur les sites de The Conversation. Et pour les journalistes maison dans ce studio, nous avons Simon Rosé, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Chef du service environnement de RFI, Stéphanie Schuller de ce même service, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Et Yang Mei de la rédaction chinoise de
bonjour,
RFI.
Anne-Cécile.
Alors pour débuter cette émission, qu'est-ce qui vous a surpris récemment dans l'actualité environnementale, Sarah?
Oui, alors moi ce qui m'a étonnée, ce sont les promesses du secteur de l'aérien. Secteur aérien qui s'est réuni début juin pour son sommet annuel, promesse d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et parmi les nouvelles propositions qui sont arrivées en juin, là début juin, on a, alors je cite, un registre qui permet de recenser les réductions d'émissions obtenues avec des carburants durables. Donc des carburants durables pour l'aviation, qu'est-ce que c'est? On a soit des choses qui dérivent de la biomasse, un peu comme les agrocarburants pour les voitures, ou des choses qui dépendent de l'électrolyse de l'eau, donc on va dire on va prendre de l'électricité décarbonée et la transformer en carburant. Sauf que quand on regarde de plus près, le compte n'y est pas vraiment. On voit que les calculs sont pas bons, parce que finalement ces carburants durables, ils sont pas si durables que ça. Ils permettent d'économiser à peu près 25% d'émissions de CO2, et encore tout ça c'est sans tenir compte des autres gaz à effet de serre produits par l'aviation. Bref, il y a quand même deux trois problèmes. On se demande si tout ça c'est pas un petit peu une façon de gagner du temps et de permettre à la demande de voyage en avion de continuer. Alors on se rappelle effectivement que la pandémie a quand même pas mal fait souffrir le secteur. On se demande si c'est pas une manière de gagner du temps. Voilà.
On se demande si c'est pas du vent. Stéphanie, vous vouliez nous parler des baleines en Antarctique.
Oui, les baleines, il y a quelque chose qui m'a complètement fascinée. J'ai lu un article sur le site de la BBC qui parle en fait d'un groupe de chercheurs de l'Université de Californie et du WWF, qui étudie les effets du changement climatique sur des baleines à bosse. Alors en ce moment, il faut savoir que ces baleines sont en Antarctique, principalement pour manger du krill. Vous savez, le krill, ça ressemble un peu à des petites crevettes. Et le krill se nourrit des plantes microscopiques qui vivent dans la glace de mer. Une baleine à bosse adulte, ça mange 3 millions de krill par jour. Elle en a besoin pour pouvoir parcourir après les 8 000 km km qui la sépare de ses aires de reproduction dans le Pacifique tropical. Mais avec le réchauffement climatique, il y a maintenant des endroits où la glace se fait de plus en plus rare, et donc le krill aussi. Et les chercheurs californiens et du WWF veulent donc connaître l'impact sur les baleines. Et ce qui m'a complètement fascinée, donc, c'est leur manière de faire, parce que c'est vrai, comment savoir si un colosse de 14 mètres de long est affamé ou pas. Mmh. Alors comment ils font? Ils vont avec un petit zodiac, avec une arbalète sur laquelle est montée une petite flèche. Ils vont enlever un tout petit échantillon de 3 cm, donc pour une grande baleine comme ça, ça fait un peu comme une piqûre de moustique, dans la graisse de la baleine. Donc c'est pas facile à faire comme méthode, parce qu'il faut quand même s'approcher
oui, quand même assez
d'abord
près, hein.
Voilà, des mammifères. Et dans cette graisse, vous allez trouver des molécules chimiques qui permettent ensuite aux scientifiques de savoir si la baleine a des carences, et donc si elle a faim, mais aussi si elle est stressée ou encore si elle est enceinte. Et j'ai trouvé ça complètement fascinant. Pour l'instant, on ne sait pas encore quels sont les résultats de ces études, mais on sait déjà que dans des années où il y a moins de glace et donc moins de krill, eh bien, on a moins de baleines en gestation.
Voilà, et des baleines qui maigrissent. Yang Mei, vous vouliez nous parler d'une vidéo qui a suscité beaucoup d'indignation en Chine.
Oui, je vais vous emmener dans un tout autre monde. Je vais vous parler d'une vidéo qui a suscité beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux en Chine. Un responsable du bureau de l'environnement de la province de Anhui, au centre-est de la Chine, y est interrogé par un journaliste qui lui demande s'il a enquêté sur une rivière qui est infestée de poissons morts. Il a répondu: on meurt bien après avoir bu du Moutrai, et pourtant je ne vais pas enquêter sur le Moutrai. Sachant que le Moutrai est l'alcool le plus réputé en Chine, souvent servi pour les banquets d'État. C'est dire comment le sujet sur l'environnement est traité avec sérieux par les officiers locaux. Mais la bonne nouvelle est que, selon la presse chinoise, ce responsable a été démis de sa fonction dans les jours qui survirent la publication de cette vidéo.
Voilà, comme quoi, attention quand même à ce que l'on dit sur l'environnement en Chine. Simon, vous avez toujours la tête dans les étoiles.
Oui, bah, les planètes en l'occurrence. Je vais vous parler de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Il y a une sonde de la NASA qui est en train de l'étudier. Et Jupiter, c'est un monde horrible, fait de gaz, avec des vents énormes et des cyclones colossaux. Et l'étude de ces cyclones, en fait, sur Jupiter, pourrait nous apprendre et nous aider à comprendre des mécanismes de formation des cyclones sur Terre. Puisque, donc là, c'est vraiment de la météo, de la physique des fluides, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu...
À la radio, c'est tout de suite un peu compliqué.
Bourrin, je vais dire ça comme ça. L'avantage de Jupiter, c'est donc que c'est grand, donc ces systèmes météorologiques, ces cyclones sont tellement énormes qu'on peut les suivre assez précisément. Ils restent plus longtemps que sur Terre, alors que sur Terre, les mécanismes de formation sont très rapides, sur une petite échelle, donc on n'arrive pas à les suivre. Il y a encore des incertitudes sur comment on passe d'une dépression, le front d'une dépression, à un cyclone, ce genre de choses. Et ben là, on a la même chose qui se produit, mais fois 20, fois 30 en taille et en temps, donc ce qui nous permet de les comprendre et les étudier beaucoup plus facilement.
Fascinant. Alors, moi, je vais vous parler de mon côté des étoiles au fond des mers. Je vais vous parler d'une éponge marine qui produit un exosquelette, une sorte de bigoudi, qui s'appelle communément une corbeille de Vénus. Alors, c'est un squelette en silice, c'est donc du verre, que cet organisme marin est capable de produire à froid. Alors que nous, les humains, nous avons quand même besoin de chauffer du sable à plus de 1500 degrés. Quand je dis à froid, c'est donc à 2000 mètres de profondeur. Je vous laisse imaginer la température. Mais les prouesses de ces éponges exactes tinélides ne s'arrêtent pas là. Les scientifiques ont découvert que ce squelette est aussi beaucoup plus conducteur que la fibre optique que nous fabriquons, les humains. Alors voilà, c'est une des merveilles que l'on peut découvrir à Biomime Expo, le rendez-vous du biomimétisme qui se déroule actuellement au Parc Floral près de Paris. Et nous y serons d'ailleurs demain dans C'est pas du vent. Allez, rentrons maintenant un peu plus dans le cœur des sujets.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous revenons sur les élections européennes du week-end dernier, qui ont donc désigné les 720 députés qui siégeront au Parlement européen pour 5 ans. Ils se réuniront pour la première fois le 10 juin à Strasbourg, dans l'est de la France, où se trouve le Parlement. Et Stéphanie Schuller, les élections européennes n'ont pas abouti à un raz-de-marée populiste, mais les Verts sont les grands perdants de ce scrutin. Alors, quelle est l'ampleur des dégâts dans les rangs des députés écologistes européens ?
Eh bien, les Verts obtiennent 53 des 720 sièges au nouveau Parlement européen. Ils occupaient 71 durant la dernière mandature. C'est donc un véritable coup dur hein, pour les écologistes européens. Et la débâcle a été particulièrement rude en Allemagne, où les Verts étaient sortis deuxième force des élections européennes et avaient pu envoyer 21 députés au Parlement européen en 2019, contre que 12 aujourd'hui. Même les jeunes électeurs, et c'est ça vraiment étonnant, ont tourné massivement le dos au parti écologiste en Allemagne. Il perd 23% de ses électeurs de moins de 30 ans. Et pourtant, c'est notamment grâce à l'engagement des Verts que pour la première fois en Allemagne, des jeunes à partir de 16 ans ont eu le droit d'aller voter. Mais ces jeunes ont donné majoritairement leur voix aux conservateurs du Parti chrétien-démocrate et à l'AFD, à l'extrême droite.
Alors cette désillusion se retrouve aussi en France pour Europe Écologie Les Verts.
Oui, désillusion la plus totale, Anne-Cécile, il faut le dire. Hein, le début de la soirée, vous vous souvenez, cette soirée électorale, les militants du parti l'ont passé, j'allais dire, en tremblant. Hein. On n'était même pas certain que cette fois, les Verts allaient passer la barre des 5%. Finalement, la liste a réussi à atteindre difficilement 5,5%.
Parce qu'en dessous de 5%, il n'y a pas de députés du tout qui partent au Parlement.
Exactement, et il y aura donc 5 députés verts français. Mais il faut quand même rappeler qu'ils étaient 12 en 2019. Donc on a perdu vraiment beaucoup. Et c'est le plus mauvais score des écologistes français aux élections européennes depuis 30 ans. Bon, tout n'est pas perdu. Au Danemark, par exemple, les Verts alliés au Parti populaire socialiste ont fait la course en tête. Mais dans l'ensemble, on peut vraiment dire que c'est une énorme claque. Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais c'est ça. Pourquoi ? Parce que jamais les enjeux écologiques n'ont été traités et portés à l'agenda de l'Union européenne comme ces 5 dernières années. Et d'ailleurs, les politiques européennes autour du pacte vert ont largement contribué, je pense, à sensibiliser les populations des 27 à ces sujets.
Alors c'est étrange parce que selon différents sondages, il y a quand même une grande majorité des électeurs européens qui déclarent que les enjeux écologiques font partie de leurs priorités.
Bah justement, et avant le vote de dimanche dernier, près de 7 Européens sur 10 avaient déclaré d'ailleurs que la question climatique était importante dans la perspective de leur choix électoral. 2/3 des 6000 personnes qui avaient été interrogées pour cette étude dans 6 pays européens par un institut de sondage britannique ont aussi dit soutenir les politiques climatiques de l'Union européenne et pensent même que l'UE devrait aller plus loin encore.
Alors c'est d'ailleurs ce que vous avez constaté aussi lors de votre voyage en train à travers le sud-est de l'Union européenne que vous avez réalisé pour RFI.
Bah, tout à fait, je ne prétends évidemment pas que mes rencontres durant ces 2 semaines en train soient représentatives de quoi que ce soit, mais j'étais quand même vraiment frappée par le fait que la question de l'urgence climatique et de façon un peu plus globale des enjeux écologiques hein, revenait spontanément dans presque toutes mes conversations que j'ai eues. Et ce qui m'a peut-être le plus impressionnée, c'est le fait que tout le monde avait des histoires personnelles, donc du vécu hein, par rapport à ces sujets-là à me raconter. Je me souviens d'un jeune garçon en Autriche qui votait pour la première fois à 16 ans, fils d'une famille d'agriculteurs de plusieurs générations et qui était tout content d'aller voter pour la première fois. Et j'ai dit donc, vous parlez maintenant, j'imagine, à table avec vos parents le soir des élections européennes. Il me dit, ah ben non, en fait, chez nous, vous savez, ça fait 4 mois qu'on parle que de l'eau. Je dis, comment ça, de l'eau ? Oui, parce qu'un lac à côté s'est asséché. Et maintenant, en fait, chez nous, en fait, c'est notre préoccupation première, parce que sans eau, on ne peut pas avoir de l'agriculture. Ce genre de réflexion. En Slovénie, les gens m'ont parlé, en fait, de la nécessaire adaptation après les crues terribles de l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être. Mmh. Donc, si les questions écologiques sont importantes pour les Européens, mais que les électeurs, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'ont pas choisi les partis verts, la question que je me pose, moi, est-ce que c'est parce que d'autres sujets sont encore plus importants en ce moment que l'urgence climatique et les questions écologiques, ou alors est-ce que les électeurs pensent que d'autres partis mèneront peut-être une meilleure politique européenne en faveur du climat et du vivant ?
Alors justement, Simon Rosé, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre la préoccupation majeure que représente l'environnement, hein, comme le disait Stéphanie dans les sondages, et la faiblesse des votes pour les partis écologistes lors de ces élections européennes ?
Ah, c'est toujours un exercice hasardeux. Après, il y a quand même quelques tendances qui se dessine, on voit un retour comme on l'appelle un peu trivialement, d'écolo-bashing, de dénigrement des mesures écologiques depuis quelques mois, avec la survenue des crises auxquelles on assiste. La crise agricole du début de l'année en Europe en est le dernier avatar. Et en fait, les mesures écologiques sont présentées un peu comme les boucs émissaires et responsables de tous les maux, puisqu'elles compliquent la vie des gens, c'est cher, ça crée du chômage, c'était quand même beaucoup plus simple avant. On rentre en fait un peu dans le dur de la transition écologique, où il y a une transformation du système à faire qui est un peu plus compliquée.
Et avec la campagne nécessité européenne... d'accompagnement quand même pour une justice, une justice environnementale, quoi. C'est-à-dire que ce ne soient pas les plus pauvres qui...
Ah bah après, la science le dit, le GIEC le dit, sans justice sociale, il n'y a pas de transition, ça ne marchera pas. Et pour le coup, il y a des études scientifiques qui l'appuient. La campagne également au niveau européen n'a pas été faite sur ces thèmes, clairement. Pouvoir d'achat, immigration, ce sont des démarqueurs qu'on a retrouvés un peu en Europe. Et il y a également un climat en Europe qui est peu propice à la défense de ces thèmes également. Le rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, pour l'ONU, l'a rappelé et s'en émeut régulièrement. Il y a un climat en Europe, là c'est les régions du monde, où ce climat-là se dégrade le plus envers les défenseurs de l'environnement. La France est celui où il y a un arsenal policier le plus répressif en Europe, en Angleterre, au Royaume-Uni. Bon, c'est pas l'UE, c'est pas les 27, mais c'est nos copains quand même. Là, il y a un système judiciaire qui est très violent. Avec eux, donc, tout ça mis bout à bout apporte quelques pistes d'explication.
Alors, ce nouveau Parlement est désormais constitué. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour la politique environnementale de l'Union européenne ?
Donc c'est un Parlement où clairement le bloc de droite, le PPE, donc le Parti Populaire Européen, qui était déjà la première force, sort conforté de ce Parlement, de ces élections. Un quart d'eurodéputés d'extrême droite répartis en deux groupes. Donc il y a une droitisation claire du Parlement européen, même s'il n'y a pas la razzia de l'extrême droite comme c'était craint avant le scrutin. PPE qui déjà depuis quelques mois, donc dont est issue Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui brigue un second mandat, PPE qui déjà, donc, et encore plus fortement à l'occasion de la crise agricole, avait déjà commencé à mettre un peu le holà sur tous les textes qui ont été mis en place depuis 2019. On rappelle que la précédente législature du Parlement européen, c'est le Green Deal, c'est les projets de loi, les projets de règlement sur la restauration de la nature. Il y avait une vraie ambition européenne qui commençait déjà à être un peu remise en question.
Détricotage du pacte vert européen. Et rapidement, la situation en France ajoute encore du flou à la situation.
Ah oui, en plus, puisque le Rassemblement national, s'il gagne les élections législatives, par exemple sur le thème des énergies renouvelables, il n'est même pas pour un moratoire sur les énergies renouvelables, il est pour démanteler l'existant, notamment sur les éoliens. Donc si on a un Conseil des ministres européens de l'environnement, de l'énergie, où on envoie un ministre de l'énergie Rassemblement national... les objectifs déjà français à horizon 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne seront pas tenus. Et ça promet des discussions qui vont être un peu bizarres à Bruxelles lors de ces commissions.
À suivre donc de près, c'est évidemment ce que nous ferons pour vous sur RFI. Restons en Europe, en Irlande et en musique avec Van Morrison et son titre « Bright Side of the Road ».
Sometimes I don't know why. And time simply goes by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
Bright Side of the Road de l'Irlandais Van Morrison sur RFI. Vous écoutez le club de C'est pas du vent qui donne la parole aux journalistes qui traitent des sujets environnementaux sur RFI et ailleurs. Et chaque semaine, nous mettons aussi en avant un vidéaste amateur du réseau hip-hop pour Petites Ondes Participatives. C'est une chronique de Caroline Fillette.
Aujourd'hui, direction Haïti, où nous partons à la rencontre du docteur Jean-Hugues Henriz. Dans cette vidéo, nous voyons une ville de Port-au-Prince submergée par les déchets, étouffée par des fumées toxiques provenant de la cuisine au charbon ou des pneus qui brûlent pendant les manifestations. Un reportage hip-hop signé Lovely Stanley Numa et intitulé « La pollution tue en silence à Haïti », dont nous allons écouter un extrait.
On connaît que Port-au-Prince, dans les années 50, c'était une ville qui était gagnée à peine...
À Port-au-Prince, dans les années 50, il n'y avait que 250 000 personnes, tandis qu'en 2021, on compte à peu près 2 millions d'habitants dans la capitale haïtienne, et même plus.
Avec les fatras qui boulaient, bien évidemment.
Avec les piles d'immondices, on assiste donc à un autre phénomène, qui est l'incinération des déchets. Et ça, de jour comme de nuit. Les fumées sont inhalées et cela a de graves conséquences sur la santé de la population.
Donc on est que dans le pays d'Haïti, en pile monde, c'est bois que vous utilisez pour vous faire charbon.
Savez-vous qu'ici, en Haïti, on utilise aussi le bois pour faire du charbon? La majorité de la population l'utilise pour la cuisson des aliments, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur maison.
En plus,
et à ça s'ajoute aussi le fait qu'ils brûlent les pneus lors des mouvements de protestation. En somme, le problème sanitaire dans les villes est l'un des défis majeurs auxquels font face tous les pays en développement. Or, quand l'augmentation de la population n'est pas proportionnelle avec le nombre d'infrastructures, cela engendre des problèmes d'assainissement graves, avec par exemple le manque de toilettes, parce que quand les habitants ne trouvent pas ou n'ont pas d'endroit approprié pour faire leurs besoins, ils ont souvent recours à des sachets plastiques pour déféquer. Ainsi, l'usage de ces derniers est un des facteurs de pollution au même degré que les matières qui s'y trouvent. Ce sont tous ces éléments-là qui constituent de vrais défis de santé dans les grandes villes, notamment dans les pays en développement.
Sous-développés dans les pays en développement.
Lovely Stanley Numa, bonjour.
Bonjour Caroline et bonjour aux fans inconditionnels du magazine C'est pas du vent.
Alors ce film hip-hop a été tourné en 2021. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce reportage ?
Je dois vous dire, Caroline, depuis les 5 dernières années, il est possible de constater une grave négligence, ou on peut même dire que certaines mairies ont échoué dans leur mission. Elles n'ont plus la même gestion des déchets qu'auparavant. Et de plus, c'est que la population est livrée à elle-même pour gérer les déchets ménagers, que ce soit dans les foyers, les marchés ou les lieux publics. Et l'État perd le contrôle, surtout avec une population qui manque de responsabilité et qui jette partout où elle trouve lorsqu'elle souhaite se débarrasser des déchets. Et cette mauvaise pratique, notamment d'incinération des déchets à l'air libre, entraîne une pollution considérable de l'air et les passants ou usagers de la route sont très exposés.
Alors, quelles seraient les solutions qui pourraient être mises en place pour réduire cette pollution et tous ces problèmes de santé ?
Bon, voilà. Comme solution, je pense qu'il est nécessaire que l'État apporte son soutien aux initiatives où des jeunes font le recyclage des déchets afin de les transformer en œuvre d'art. Les déchets organiques peuvent être convertis en compost, engrais organiques ou naturels, bénéfiques pour la production et les sols. Ils peuvent également être convertis en biogaz. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur de jeunes entreprises. Il y a aussi les déchets plastiques qui peuvent se transformer en matériaux alternatifs utilisés dans la construction durable. Alors, si l'État, par le biais des municipalités, favorise la création de partenariats publics-privés et surtout soutient les initiatives de jeunes entrepreneurs, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour créer de grandes entreprises capables de valoriser les déchets, il est possible que la diminution et que certains problèmes sanitaires soient résolus.
Merci beaucoup, Lovely.
Merci Caroline, merci au staff de C'est pas du vent.
Merci Caroline et merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI, Planète Radio et les chercheurs de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Stéphanie Schuller, vous vouliez réagir?
Oui, il se trouve que je connais un peu le pays Haïti pour y être allé plein de fois.
Pour RFI.
Pour RFI, oui. Pour CFI aussi. Mais en fait, je voulais juste réagir à ce témoignage que Lovely a pu obtenir par ce docteur qui parle du problème de brûler le charbon de bois. Il faut dire qu'en fait, en Haïti, il n'y a jamais eu vraiment une politique sur l'énergie qui a été menée nulle part. Et donc, en fait, les gens, l'immense majorité des Haïtiens n'ont pas d'autre choix que de faire la cuisine avec du charbon de bois, puisqu'il n'y a pas d'électricité, en fait, presque nulle part. Et le deuxième facteur, c'est que les bonbons de gaz coûtent beaucoup trop cher. Donc, si on arrivait à enfin mener une politique sur l'énergie en Haïti, ça réglerait deux problèmes coût sur coût. Un, le problème de la pollution, évidemment, mais surtout le gros problème de la déforestation.
Voilà, et c'est un sujet commun avec beaucoup de pays africains. Allez, maintenant, interrogeons-nous sur les vraies et les fausses bonnes solutions face au changement climatique.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Sarah Sermondada, je rappelle que vous êtes responsable de la rubrique Environnement et énergie pour le média en ligne The Conversation, la rédaction française. Vous avez publié un article intitulé « La climatisation, une solution pour mieux vivre le changement climatique » avec un point d'interrogation. Oui. Tout est dans le point d'interrogation. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution ?
Oui, alors c'est la question. La clim, ça ne vous aura pas échappé, la clim a beaucoup de succès parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. Donc dans les voitures, dans les bâtiments, on a de plus en plus de gens qui installent la clim. Et la clim, évidemment, elle a des effets climatiques. C'est-à-dire qu'elle rache, elle est peut-être très bonne pour le confort local, mais elle n'est pas bonne pour le climat au global. Et ça pour plusieurs raisons. Donc la première et la plus connue, c'est... Comment fonctionne la clim ? Faut en revenir un petit peu à ce début-là. La clim, pour fonctionner, pour rafraîchir localement l'air, elle va, à partir d'un apport d'électricité, elle va prélever la chaleur à l'intérieur pour la rejeter à l'extérieur. Donc en fait, on déplace de la chaleur et ça veut dire que pour réchauffer l'intérieur, on va réchauffer l'extérieur localement et on va aggraver encore cet effet qui s'appelle îlot de chaleur urbain où dans les villes on va avoir des températures plus élevées qu'ailleurs parce qu'on a une concentration plus grande de béton, de macadam, de goudron et également moins d'arbres et moins de végétaux pour évaporer l'eau et rejeter la chaleur. Donc la clim c'est un petit peu un cercle vicieux si on veut au niveau climatique et c'est pas le seul effet climatique délétère, c'est que cette clim elle consomme de l'électricité. Cette électricité peut être plus ou moins décarbonée selon le pays dans lequel on se situe. Et cette clim, elle utilise des fluides frigorifiques pour transporter la chaleur. Et c'est normalement du circuit fermé, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de fuite, mais il y a toujours un petit peu des fuites. Et ces gaz-là, ils sont également... C'est aussi des gaz à effet de serre qui sont très, très polluants. Mmh. Donc globalement, la clim, c'est quand même toute une panoplie d'effets climatiques un petit peu problématiques.
Mais alors, est-ce qu'on pourrait imaginer se passer entièrement de climatiseurs?
Eh bien non, parce qu'il faut voir que le corps humain, il a une température limite où ça devient difficile pour lui de se refroidir. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud ? On va transpirer. Sauf que quand la température extérieure, elle commence à approcher celle du corps, et surtout quand l'air est déjà chargé d'humidité, eh ben on ne peut pas transpirer en fait. Et ça, c'est déjà... Donc, ce concept-là, pour le comprendre, les chercheurs ont introduit la notion de température humide. La température humide qui décrit un petit peu cette chaleur ressentie qui n'est pas toujours en phase avec la vraie température du thermomètre qui intègre également l'humidité. Et si on s'intéresse à cette chaleur humide, c'est aussi un concept sur lequel on a écrit un article récemment, on se rend compte qu'il y a toute une ceinture de pays autour de l'équateur, entre les tropiques, où on mesure déjà aujourd'hui des températures humides très élevées. On observe aussi que déjà lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, on a des athlètes qui ont été mis en stress thermique très dangereux pour leur santé, parce que c'est quand même des températures où le corps humain, il y a quand même un risque de mort.
Donc voilà. Avec ce que vous dites, on comprend bien qu'on va encore avoir besoin de la climatisation. Et si on regardait aussi du côté des bonnes nouvelles et des solutions dites low-tech, vous avez récemment publié un article sur une parabole solaire. Alors qu'est-ce que c'est et quels sont ses atouts pour le climat ?
Oui, c'est intéressant. Je vois bien le lien avec Haïti et la cuisine au bois dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut être une solution qui ne dépend pas de l'accès à un réseau électrique local pour cuire des aliments, pour peu qu'on ait évidemment un accès à un ensoleillement suffisamment fréquent, suffisamment garanti. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer tout le cycle de vie de l'appareil de cuisson. C'est-à-dire que la parabole solaire, souvent, elle est faite en aluminium, un métal qui est quand même très coûteux au plan climatique à produire. L'empreinte carbone de l'aluminium est quand même assez élevée.
Parce qu'il faut beaucoup d'énergie.
Exactement,
pour le produire.
Il faut beaucoup d'énergie. Et le problème, c'est que c'est quand même la part de l'empreinte carbone liée à la construction de cette parabole solaire, de ce four solaire, elle est quand même très élevée. Donc, les paraboles solaires peuvent être intéressantes là où il n'y a pas accès au réseau ou là où l'électricité est quand même trop carbonée et c'est plus intéressant.
Encore faut-il qu'elles soient acceptées culturellement. Hein. Je me souviens avoir fait de nombreux reportages dans des villages en Afrique où on voyait ces paraboles de cuisson bien mises sur le côté parce que, en Afrique, on cuisine dans beaucoup de pays sur trois pierres et pas sur des paraboles solaires. Donc voilà, ça pose quand même un petit souci. Nous vous parlerons bientôt. Oui, Simon Rosé, vous vouliez...
Je voulais sur deux choses. Déjà sur la chaleur humide, c'est intéressant que vous en parliez, puisqu'il y a une petite étude qui est sortie hier où on a appris que depuis le début de l'année 2024, un cinquième de l'humanité a connu au moins un jour de chaleur potentiellement mortelle. On pense forcément à toutes les vagues de chaleur qu'il y en a sur l'ouest de l'Afrique, sur l'Asie du Sud-Est, Inde, Pakistan, où des 49-50 degrés ont été atteints. Un cinquième de la population mondiale, juste en 6 mois. Et on revient également sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice sociale, la clim. L'accès à la clim est également un enjeu de justice sociale. On entendait Carole Izou dans le journal de 16h tout à l'heure à Bangkok. Elle nous avait fait un reportage pendant cette vague de chaleur, justement, où il y a toutes les cravates, tous les gens en costume cravate qui prennent leur voiture, qui ont accès à la clim, qui sont dans leur voiture pendant qu'il fait 48-49 dehors. Les conducteurs de tuk-tuk sur les marchés, les étals, ils ne l'ont pas.
Et leur air est réchauffé par cette pratique de climatisation.
L'horaire est en plus réchauffé et eux cuisent à basse température, si on peut le dire aussi.
Oui, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Effectivement, c'est vrai que cette clim qui nous ferait du bien, il faut quand même la mettre dans les hôpitaux ou la réserver aux personnes fragiles. Et on voit bien que les gens les plus touchés, c'est les gens qui travaillent dehors. C'est en général pas les gens les plus fortunés. Il y a effectivement cet enjeu de justice sociale qui est très important.
Alors, pour ces solutions, nous vous parlerons bientôt des low-tech dans ce club avec une nouvelle chronique en compagnie de l'ingénieur inventeur voyageur Corentin de Châtel-Perron. Et si vous avez déjà envie d'en savoir plus, vous pouvez aller visiter le Low-Tech Lab sur le site lowtechlab.org. Dans un instant, Caroline Fillette va nous faire découvrir une bande dessinée qui met en avant le travail des scientifiques du GIEC. Mais d'abord, un hommage sur RFI à Françoise Hardy qui est décédée hier. Voici son célèbre titre « Tous les garçons et les filles ».
Tous les garçons. je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi je vais seul car personne ne m'aime.
Tous les garçons et les filles de l'autrice, compositrice, interprète Françoise Hardy, une figure de la chanson française à l'aura internationale, décédée hier. À cette occasion, Jean-François Cadet rediffusera une édition de Vous m'en direz des nouvelles, enregistrée avec elle en 2018. Ce sera juste après le journal à 15h10, temps universel sur RFI. Bonjour Caroline Fillette.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors on vous a déjà entendu avec le hip-hopper tout à l'heure, mais là vous allez nous présenter votre chronique culturelle, une chronique mensuelle, et vous allez nous parler d'une bande dessinée aujourd'hui.
Alors Anne-Cécile, ça fait plus de 15 ans que vous travaillez pour C'est pas du vent, je crois.
Oui.
Donc vous maîtrisez à la perfection les acronymes liés à l'environnement, n'est-ce pas ? Mais on va vérifier.
Ça sent le piège.
On va vérifier quand même. Les GES, par exemple, qu'est-ce
les
que c'est ?
Les gaz à effet de serre.
Bravo. Simon, vous voulez participer au quiz, Simon ? Ça vous dit quelque chose, l'IUCN ?
L'Institut...
Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Ok, très bien. Bon, un petit dernier pour la route, WWF. Stéphanie,
World
Simon.
World Wide Fund
for Nature. Front mondial pour la nature en français. Bon, ok, je m'incline. Hein. Vous êtes tous trop forts. Pour ma part, je travaille à C'est pas du vent depuis le mois d'avril seulement et je suis encore en phase d'apprentissage de ces acronymes. Mais il y en a un que je maîtrise pas trop mal, c'est le GIEC.
Alors, comment se décline-t-il ? C'est important de le rappeler parce qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs, même sur RFI quand on parle du GIEC.
Bon, alors, je vais essayer de pas faire d'erreurs, mais je crois qu'il s'agit du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Validé.
Et c'est validé, c'est bon. Et si je maîtrise pas trop mal cet acronyme, c'est grâce à la bande dessinée Horizon Climatique, parue chez Glénat en mars. Alors cette BD, c'est le fruit de la rencontre entre Iris Amata-Dion, chercheuse en sciences du climat, et Xavier Henrion, dessinateur. Ils sont partis à la rencontre de 9 scientifiques qui ont contribué au dernier rapport du GIEC, dont la climatologue Valérie Masson-Delmotte, que l'on reçoit régulièrement dans C'est pas du vent, ou Céline Guivarch, économiste du changement climatique. Et oui, ça existe.
Et oui, on en a bien besoin.
Et c'est la première fois que le GIEC est résumé sous forme de bande dessinée. C'était d'ailleurs un véritable souhait de la part des auteurs de divulguer auprès du grand public les travaux du GIEC qui sont quand même très pointus. Rappelons d'ailleurs que la principale mission des experts du GIEC, c'est de se partager la lecture de toutes les études scientifiques et de les synthétiser sans aucun parti pris.
Alors Caroline, puisque vous êtes dans C'est pas du vent depuis avril, qu'avez-vous appris grâce à cette bande dessinée ?
Ah là là, tellement de choses Anne-Cécile. Et en premier lieu, j'ai quand même découvert que je suis loin d'être la seule à ne pas savoir exactement en quoi consiste le GIEC. La BD débute sur cette idée, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, que trop de personnes ne connaissent pas ou peu le GIEC. L'une des scientifiques interrogées, la chercheuse en géographie, Virginie Duva, explique que souvent, quand on dit qu'on est auteur pour le GIEC, ça impressionne les gens. Et en même temps, c'est comme si cela ne les concernait pas. C'est très nébuleux pour eux. Ensuite, au fur et à mesure de la lecture, j'ai découvert entre autres que la consommation de chocolat ou de café émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Aïe, aïe, aïe.
Oui, idem pour le thé d'ailleurs.
Ouais. Qu'il existe aussi plein d'outils sur Internet pour calculer son propre bilan carbone, pour savoir où on en est à titre personnel. Et surtout... j'ai vraiment compris que nous en sommes à un stade où chaque dixième de degré de réchauffement du climat compte. Alors, ce qui frappe également à la lecture de cette BD, c'est de réaliser que faire partie du GIEC, c'est une expérience psychologique très difficile pour les scientifiques qui sont obligés de se confronter à la réalité. Mais on découvre aussi, et ça c'est un peu plus réconfortant, que le mot résilience, qui se définit par notre capacité à surmonter les chocs, c'est un mot récurrent dans les rapports du GIEC. Et par ailleurs, les dessins de Xavier Henrion, très simples, avec une ligne claire, se marient extrêmement bien à la rigueur scientifique du scénario. Et j'ai pu joindre Xavier Henrion par téléphone et je lui ai demandé s'il avait ressenti de l'éco-anxiété en travaillant sur cette bande dessinée, pas comme les autres.
En fait, ça a été plutôt l'inverse, parce que moi, j'étais quand même un petit peu au courant de ce qui se passait. Donc, quelque part, l'éco-anxiété, alors même si j'étais pas en grande dépression, elle était déjà là. Je me sentais pas forcément très bien avec cette histoire. Ça m'a quand même permis d'approfondir certains sujets, ce qui n'est pas toujours très rassurant. Par contre, j'ai surtout découvert à travers les travaux du GIEC toute la partie dont on parle beaucoup moins, c'est-à-dire les risques et les façons de s'adapter, ainsi que les solutions et toutes les solutions d'atténuation des risques, justement.
Pensez-vous que Horizon Climatique puisse devenir un véritable outil pédagogique pour les écoles, par exemple ?
C'est un des objectifs de la BD, pas seulement, c'est vrai que c'est une histoire et c'est une vraie BD, mais c'est vrai que le principe que ce soit un outil pédagogique a toujours été en tête chez nous. Et d'ailleurs, on le voit déjà des enseignants, chercheurs dans le monde académique, mais aussi dans des lycées qui veulent s'en servir, qui utilisent des pages pour expliquer les choses.
Xavier Henrion, vous étiez déjà conscient avant de travailler sur cette bande dessinée des problèmes environnementaux, mais est-ce que votre regard a quand même changé un petit peu depuis ?
Alors oui, en travaillant là-dessus, j'ai découvert tout un pan de ce qui se fait au niveau politique, au niveau économique. Et c'est vrai que même si le constat peut faire peur, malgré tout, je vois qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a plein de pistes. Maintenant, il faut avancer en fait. Et quelque part, le fait de faire cette BD et de réaliser tout ce qu'il est possible de faire, ça me fait me dire que justement, toutes ces choses qui sont possibles de faire, il ne faut pas juste que ce soit de l'ordre du possible, mais que ce soit de l'ordre du réel, en fait. Et il faut se bouger pour que ça se fasse, justement.
Et oui, nous ne cessons de le dire dans C'est pas du vent. Il faut agir, Caroline.
Et oui, la bande dessinée s'achève d'ailleurs sur cette phrase d'Albert Einstein. Deux points, j'ouvre les guillemets. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Je referme les guillemets. Le message est clair, je pense. Notez aussi que le prochain rapport du GIEC est attendu vers 2027. Bon, je vous recommande absolument la lecture d'Horizon Climatique, paru chez Glénat. Et bonne nouvelle, un exemplaire de cette bande dessinée est à gagner, chers auditeurs. Pour tenter votre chance, envoyez-nous vos coordonnées complètes par mail à l'adresse suivante c'estpasduvent@rfi.fr.
Merci Caroline, rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle chronique culture. Simon Rosé, pendant que Stéphanie Schuller inonde le studio avec sa gourde, attention, on n'a pas de bouteille en plastique, on a des gourdes, donc quand ça tombe, ça fait un bruit métallique, c'est ce que vous venez d'entendre à l'antenne. Donc Simon Rosé,
j'avais
vous vouliez...
un acronyme pour Caroline.
Oh,
Le SPM, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est le Summary for Policymakers, c'est le résumé pour décideurs du GIEC. Vous parliez du côté un peu nébuleux, on ne sait pas ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, c'est le résumé qui fait 15, 17, 20 pages en français, en anglais, c'est traduit dans toutes les langues, c'est dispo sur le site du GIEC et c'est accessible à tout le monde. Et je recommande vraiment la lecture, notamment du dernier rapport du GIEC. Il y a tout dedans en 20 pages et c'est l'état des connaissances, l'état de l'art en sciences climatiques aujourd'hui.
Et ça a été traduit en français, voire vulgarisé par certaines personnes des ONG bien impliquées avec du vocabulaire simple. Donc personne n'a d'excuses en fait pour ne pas lire les rapports du GIEC, en tout cas leur résumé. RFI émet en 15 langues et figurez-vous que dans chaque langue, il y a un référent environnement et évidemment, nous leur donnons la parole dans C'est pas du vent.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsache ca sunt ceva.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты Международного французского радио RFI.
Yang Mai, vous vouliez nous parler des PFAS en Chine et à Taïwan.
Oui, ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler des PFAS en France. Je pense que tout le monde autour de cette table sait ce que c'est. Et je rappelle quand même que les PFAS sont les molécules chimiques utilisées pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou résistantes aux fortes chaleurs. Elles sont aujourd'hui partout et présentent une pollution majeure car elles sont extrêmement persistantes dans l'environnement et on les nomme polluants éternels. Certains PFAS sont classés comme cancérigènes par l'OMS. En France, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté récemment une loi interdisant la production et l'importation des PFAS sur le sol français. Mais ces interdictions ne concernent pas les entreprises françaises qui produisent des PFAS ailleurs qu'en France. Prenons l'exemple de la société Arkema qui est dans la viseur de la justice américaine et française depuis quelques années. Elle a délocalisé depuis 20 ans ses productions en Chine. D'ailleurs, c'est en Chine, dans la ville de Changshu, près de Shanghai, qu'Arkema a installé son plus grand centre de production.
Alors, comment Arkema est perçu en Chine ? Est-ce qu'il y a des réglementations qui concernent les productions de ces PFAS en Chine ?
Oui, en Chine, Arkema est considéré comme un exemple de réussite dans la collaboration franco-chinoise. Et pourtant, les PFAS ne sont pas inconnus en Chine. Les médias chinois suivent de près les procès aux États-Unis concernant la pollution des eaux aux PFAS. Des chercheurs chinois travaillent sur ce sujet. Par exemple, j'ai trouvé un article sur les PFAS en Chine, écrit par un groupe de chercheurs de l'Institut de l'Environnement de l'Université Tsinghua de Pékin. Cet article a été publié en anglais en 2021 dans la revue européenne des sciences de l'environnement. Il s'agit d'une étude sur les PFAS présents dans l'eau potable dans une soixantaine de villes chinoises. La ville de Changshu, où Arkema est implantée, est classée troisième ville la plus polluée. Signalons qu'il y a à Changshu d'autres entreprises productrices de PFAS telles que Daikin, Kemur, etc. Ces chercheurs chinois ont appelé les autorités chinoises à prendre des mesures urgentes. Mais curieusement, l'appel des chercheurs chinois n'a pas suscité beaucoup d'écho dans la presse chinoise et les villes qui ont été classées en tête de liste des villes les plus polluées n'ont pas réagi non plus à cette révélation.
Mais est-ce que le gouvernement chinois, lui, a réagi ?
Oui, effectivement, le gouvernement chinois a répondu à l'appel des chercheurs. Le ministère de l'Environnement a publié un an après les normes concernant les PFAS dans l'eau potable. Ces normes sont plus strictes que celles de l'Union européenne pour certains PFAS et largement au-dessus des taux relevés dans l'eau potable dans la plupart des villes chinoises. Mais le problème est que les autorités chinoises n'ont pas annoncé ni de mesures à prendre pour purifier les eaux polluées, ni de politique pour limiter la production des PFAS. La Chine se contente de suivre la Convention de Stockholm, alors qu'avec la concentration des plus grandes sociétés chimiques en Chine, la pollution des PFAS est devenue un grave problème de santé publique.
Sarah, vous vouliez rapidement réagir sur les PFAS ?
Oui, ces PFAS, ces polluants éternels, sont un véritable enjeu. Et c'est vrai que ce que vous dites, en fait, c'est intéressant parce que le problème des PFAS, c'est qu'il n'y a pas une molécule à suivre. Il y en a des vingtaines, des milliers. La littérature scientifique dit même que quand on prend en compte la dégradation des PFAS dans l'environnement, il pourrait y en avoir jusqu'à des millions de molécules différentes. Donc imaginez-vous pouvoir tout suivre dans des laboratoires, suivre toutes ces molécules. C'est un défi scientifique aussi, en fait, les PFAS.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.